Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Prague en français en ce lundi de Pâques, jour de fête également en République tchèque. C'est une émission spéciale que nous vous proposons. Très bonne écoute.
Benoît Meny je učitel francouzštiny a hlavně překladatel spousty českých knih do jeho rodného jazyka. Já jsem se s Benoît Menyérem setkal v Budějovicích a zeptal se ho, podle čeho si vybírá, co přeloží.
V mém případě já žiju tady v Čechách, to znamená, že většinou, a ne vždycky, tak se nakladateli obrátí na mě s tím, že mají nějaký projekt třeba...
Le tchèque est-il vraiment une langue si difficile à apprendre? Peut-on prétendre parler tchèque sans faire usage des règles de grammaire et sans connaître par cœur les tableaux de déclinaison? Comment prononcer les mots qui ne sont que des suites de consonnes? Quelles sont les autres difficultés auxquelles sont confrontés les Français lorsqu'ils se lancent dans l'aventure de l'apprentissage du tchèque ou encore... Pourquoi le tchèque de Prague n'est pas celui d'Ostrava? Comment parle-t-on en Bohême et en Moravie? Autant de questions que nous avons posées à Benoît Meunier. Benoît Meunier, professeur de français à Prague et traducteur reconnu du tchèque au français. Benoît Meunier, un français installé dans la capitale tchèque depuis 1999 et qui nous a fait partager son expérience.
Například teď vyjde nově Švejk od Haška a to jsem oslovil, to nakladatelství, protože jinak by sami od sebe samozřejmě by se neuvědomili, jak ten
sám. Essentiellement, le tchèque, je l'ai appris aussi parce que cette langue m'a fasciné, réellement et littéralement. C'est-à-dire que c'est une langue qui est complètement délirante, qui est absolument géniale, parce que c'est comme si on prenait le russe et qu'on... une autre langue slave, le vieux slavon, et puis on en enlevait toutes les voyelles, on asséchait complètement, on déshydratait. La langue, il reste que les consonnes, comme ça, des espèces de chaînes de consonnes, avec des petites voyelles fantômes au milieu. C'est au niveau de la prononciation, c'est de la musique, c'est super drôle.
Donc, évidemment, c'est. Avez-vous un exemple concret pour illustrer vos propos?
Il y a les fameuses expressions strč prst skr skrk que tout le monde connaît, qu'on apprend. Voilà. Alors, c'est très amusant aussi de prononcer, parce que la plupart du gens, les gens ont du mal à apprendre à prononcer ce type de phrase. Mais si on joue un petit peu avec, on y arrive. Alors, il y a la question de l'effort aussi, la question de la motivation, du jeu. Apprendre une langue, c'est un jeu. Il faut que ce soit ludique. C'est aussi une manière de se cacher, de se dissimuler, de disparaître, de dire je fais disparaître mon moi, ce que les Français font pas forcément facilement, puisque culturellement, la culture française, c'est une culture qui est extrêmement forte au niveau international. Il y a une présence depuis plusieurs siècles, etc. On n'oublie pas comme ça aussi facilement le fait qu'on est français. Paradoxalement, c'est très facile de s'approprier l'identité française, de se réclamer, de se rendre français. C'est beaucoup plus difficile de s'approprier l'identité tchèque. Mais bon, c'est
pourquoi
je pourrais peut-être pas l'expliquer en deux minutes. Ça, c'est un peu complexe. J'essaie d'y réfléchir, mais peut-être est-ce parce que l'identité tchèque a longtemps été complexe et menacée, justement. Et que donc, c'est pas si facile que ça. Donc, apprendre une langue, c'est un jeu. En tout cas, il y a plusieurs phénomènes qui jouent pour les linguistes, pour les psychologues et les psycholinguistes. Il y a aussi le degré d'adaptation. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, notamment à l'adolescence, la capacité à entendre les sons se ferme, se réduit, et puis à reproduire les sons, et donc on a plus de difficultés à apprendre. C'est vrai dans une certaine mesure. C'est-à-dire que si on veut, on peut. On peut toujours apprendre une langue, c'est toujours possible.
Quand vous évoquez cette difficulté à reproduire des sons, vous l'avez dit, vous avez évoqué ces suites de consonnes, ces mots tchèques qui effectivement peuvent sembler imprononçables. Vous qui maîtrisez aujourd'hui très bien cette langue tchèque, y a-t-il malgré tout encore des mots, des expressions qui vous posent problème?
Non, clairement pas. Ça peut m'arriver parfois devant mes étudiants de glisser ou de déraper. Or, si, bien sûr, évidemment, il y en a toujours. Par exemple, il y a la fameuse diphtongue. En français, on dit diététique. Eh bien, en tchèque, on ne dit pas diététique, on dit diététique. C'est-à-dire que le i et le e sont bien distincts, c'est une diphtongue. Et ça, c'est extraordinaire. C'est même après 10 ans de pratique quotidienne, je peux encore glisser là-dessus. Et du coup, mon interlocuteur me fait répéter « Hein, qu'est-ce que tu as dit ?» On n'est pas sûr d'avoir compris. Donc oui, il y a toujours des petits problèmes. Mais quand je parle avec quelqu'un dans la rue, en général, soit il ne m'identifie pas comme étranger, il va dire « Tiens, ce type-là est de Moravie ou de Slovaquie. » Il va se dire que j'ai un accent. Après, je n'ai pas une tête de tchèque typique, donc les gens imaginent que je suis étranger aussi. dans les mots les plus cauchemardesques, effectivement, il y a des suites de consonnes qui sont quand même assez pénibles et assez, comment dire, laborieuses. Par exemple, le mot velriba, voilà, j'ai encore mal prononcé, le l palatalisé.
Le r. La baleine.
Voilà, la baleine. Donc, bon, par exemple. Mais aujourd'hui, dans la langue de toujours, ça ne me pose aucun problème, évidemment. Non, quand je parle tchèque, je suis complètement dedans, j'y pense pas. Et en fait, la plupart des mots, sauf exception. Alors, je ne suis pas le seul, en fait. C'est quelque chose que je voulais dire aussi. Il y a d'autres Français qui parlent tchèque. En général, ils ont un accent, c'est vrai. La plupart du temps aussi, les amis tchèques qui vivent ici font beaucoup de fautes. Ils parlent, ils déclinent pas, ou pas, ils conjuguent à peine, etc. Mais je connais quand même beaucoup de Français qui parlent tchèque. Ensuite, c'est vrai aussi que, en fait, c'est un problème de nom, parce qu'il y a beaucoup de Tchèques qui parlent français, qui parlent français absolument parfaitement, sans accent. Personne ne s'extasie devant leur français, alors que moi, je suis le premier à être admiratif, puisque j'imagine, pour eux, c'est aussi difficile d'apprendre le français que pour nous, le tchèque. Hein. Il y a aucune... Simplement, on n'est pas très nombreux à avoir fait la démarche inverse, c'est tout.
Quelles sont les principales difficultés, selon vous, auxquelles sont confrontés justement les Français dans l'apprentissage du tchèque ?
Alors, les difficultés du tchèque résident essentiellement, à mon avis, dans la grammaire, dans les déclinaisons.
Et peut-on prétendre bien parler tchèque sans forcément maîtriser tous ces tableaux de cas qu'il faut apprendre par cœur au début, si on veut quand même s'en sortir un minimum ?
Tout est toujours affaire d'exigence. On peut communiquer, on peut avoir une... C'est vrai que c'est pas facile d'avoir une conversion de base avec des mots si on conjugue pas, on décline pas. C'est vrai que la prononciation est quand même particulièrement difficile pour les Français qui ont du mal à s'adapter. Il y a énormément de nuances et de subtilités dans les préverbes, par exemple les préfixes. Donc on a des petits glissements comme ça. Oui, puis on a des verbes, des tournures qui sont impersonnelles, qui sont pas du tout naturelles en français. Donc, par exemple, j'ai longtemps dit comme ça, j'ai saigné de Ulomil Nohu, j'ai saigné de Lomil Nohu. Voilà, quelqu'un, donc il s'est cassé la jambe dans le sens qu'elle est complètement partie, qu'il l'a perdue. Ulomil, c'est l'idée de brisure, mais avec la séparation des deux morceaux. Alors que Zlomit, c'est cassé en deux, mais c'est toujours accroché. C'est extraordinaire. Ça, c'est une nuance qu'on n'a pas. En revanche, par exemple, le système des temps, en tchèque, comme dans toutes les langues slaves, il est d'une simplicité enfantine. Et j'ai énormément de mal à expliquer à mes élèves, mes étudiants, ce que c'est qu'un futur antérieur ou un passé antérieur.
Dans votre travail de traduction, peut-on prétendre que la langue tchèque est plus riche, a plus de nuances que le français ?
Non, il n'y a pas de langue qui est plus riche ou qui a plus de nuances qu'une autre. Il y a des champs, des domaines dans lesquels une langue a évolué différemment. Comme je le disais tout à l'heure, dans le domaine du système verbal, du système temporel, des verbes, effectivement, le français est plus riche, clairement. On a une palette de nuances qui est extraordinaire et ça pose problème aux traducteurs tchèques pour rendre des phrases qui nous paraissent évidentes et qu'un enfant de 5 ans, 6 ans utilise sans même s'en rendre compte. En revanche, on a d'autres domaines effectivement qui sont plus développés. On peut avoir des nuances assez subtiles, par exemple avec les préverbes en tchèque. On dit que d'un point de vue lexical, alors bon, les lexicologues ils se battent à coups de statistiques et ils essayent de savoir quelle langue a le vocabulaire le plus large, le plus riche. Alors ça, moi, ça me paraît vraiment peu convaincant. Je pense qu'on dit qu'il y a plus de vocabulaire au sens strict en tchèque qu'en français. Donc déjà, du fait que la plupart du temps, on a pour un mot, on a déjà un mot de nature purement slave et puis un mot de nature latine, voire germanique. Donc on a souvent 2, 3, 4 mots pour désigner la même chose. En réalité, en français, on a quand même aussi beaucoup de synonymes. On a peut-être un petit peu plus d'amplitude dans les registres stylistiques. Il faudrait vérifier ce que j'avance, hein. C'est une intuition, mais j'en suis pas tout à fait certain. Donc non, il n'y a pas de langue qui est plus riche qu'une autre. Simplement, à certains moments, dans certaines situations, on peut être peut-être plus précis. Le tchèque pourra dire une phrase qui sera pertinente, qui sera très difficile à traduire, et ça peut être vrai dans une autre langue.
Jak říkáte, text je starý 100 let, originály se nemění, ale překlady se mění. V případě Švejka první díl byl přeložený panem Hořejším, který byl neskušetně nadaný český překladatel, ale sice Čech, to znamená, že z různých hledisek, z různých vrstev ten text není úplně ideální, jednak lexikálně ten slang byl trošku zastaralý nebo podivuhodné, jako nevždycky spolehlivé.
Pour revenir à votre cas plus personnel, vous avez évoqué la fascination qu'a exercé sur vous le tchèque dès le début. Qu'est-ce qui vous a plu alors plus particulièrement ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez accroché tout de suite ?
Alors on en a parlé, moi c'est ce qui m'amusait d'abord, c'est les sonorités m'amusaient énormément. Les sonorités sont quand même très très originales, on va dire. Et puis il y a une espèce de défi, c'est un peu, j'aime bien les casse-têtes, les rébus, etc. Donc voilà, est-ce qu'on pourra arriver à prononcer Čvrtín, sachant qu'en réalité les tchèques simplifient, on ne dit pas Čtvrtý, on dit Čvrtín, Čvrtý, on simplifie. Mais donc il y avait ce côté défi, ce côté est-ce qu'on va y arriver ou pas, le côté ludique, parce que c'est quand même très amusant. Et puis tout simplement, ça donne aussi, donc dans la littérature, ça donne une poésie, par exemple, qui est très intense, qui est très éloignée de l'expression française. On a une métrique en tchèque qui est en général plus courte, plus restreinte, des vers qui sont plus ramassés. Parce que ce qu'en général un français dirait dans un alexandrin en 12 syllabes, un tchèque pourra le condenser en 8, en 10 syllabes. Ça se retrouve aussi dans la prose, évidemment. On a des textes qui sont plus denses. Le tchèque est une langue synthétique, hein, donc on a beaucoup moins de petits mots qui précisent. Notamment, il n'y a pas très peu de pronoms. Ils sont agglutinés avec le verbe. Le français, au contraire, est analytique. On a tendance à développer, répéter de manière extrêmement redondante. La même chose, qui fait qu'on arrive à des phrases comme qu'est-ce que c'est, où il y a que ce est, avec 6 mots, alors qu'en tchèque on a toto, on a 3 mots et ainsi de suite. Quoi. Donc voilà, il y a un peu tous ces aspects, et puis il y a le fait aussi que pour moi c'était lié à Prague, à ma vie à l'époque, où c'était me reconstruire dans une autre langue, c'est ça, c'est très personnel, puisque je suis parti, j'ai quitté ma ville, Lyon, qui ressemble beaucoup à Prague. Et je me suis reconstruit à travers cette langue, en fait. Je me suis réapproprié le monde à travers cette langue. Je me suis refait des amis, je suis tombé amoureux dans cette langue, etc. Donc, réellement, j'ai changé. Et donc, au bout d'un moment, cette langue, elle s'est inscrite en moi. Maintenant, elle fait partie de moi. À tel point que, d'ailleurs, que parfois, j'ai le sentiment de perdre mon français. J'imagine que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. J'imagine que vous aussi. Parfois, j'ai des contaminations, j'ai des doutes, je cherche mes mots, etc. Pour moi, c'est évidemment un cauchemar, parce que je travaille avec la langue. J'écris en français, je traduis vers le français, donc... Malgré tout l'amour que j'ai pour le tchèque, le français reste ma langue d'expression, ma langue de nourriture, ma langue d'élection. Et voilà, le tchèque est une province qui s'y est ajoutée.
Vous êtes arrivé à Prague en 1999, vous avez connu la République tchèque début des années 2000, c'était encore une époque de grands changements. Quels souvenirs gardez-vous de cette période ?
Là encore, il y a une conjonction de facteurs qui jouent. Hein. Donc, il y a mon histoire personnelle, le fait que je voulais quitter mon pays, ou en tout cas, je voulais pour un certain temps vivre à l'étranger, essayer de voir autre chose, de me reconstruire différemment. C'était une manière de fuir, mais c'est aussi une manière de chercher, de refaire. Et le fait aussi qu'effectivement, Prague à Sipoja, c'était quelque chose de magique, peut-être plus que maintenant, je ne sais pas, c'est difficile de comparer. J'avais l'impression que soufflait effectivement un vent de liberté, il y avait quelque chose de très motivant, il y avait quelque chose de très ouvert à l'époque. J'avais l'impression, et je pense que c'était en partie fondé, qu'une grande liberté ici. Mais là encore, j'ai du mal à faire la part des choses et à déterminer ce qui est, moi, ce que j'ai pu, moi, d'un coup, trouver de liberté, ce qui m'étouffait en France ou à Lyon, ce que je pouvais faire ici, cette espèce d'immense terrain de jeu, et ce qui était réellement, objectivement, dans l'air du temps, ici. Bon, mais je pense qu'effectivement, au début des années 90, il y avait... Tout était à faire, tout était à construire, il y avait un enthousiasme terrible, les Tchèques étaient ravis d'avoir des Français, des Anglais, des Américains, etc. Alors attention, évidemment, ils étaient ravis d'avoir un certain type d'étrangers qui arrivent, hein. Mais quand même, c'était très sympa, et ils le sont toujours d'ailleurs, hein. Ils sont toujours extrêmement francophiles, les Tchèques, donc ça fait partie des raisons aussi qui font qu'on est là. Ça a changé, oui, probablement, la ville est plus calme et les choses ont changé. Au quotidien, par exemple, le café qu'on boit ici, il y a 15 ans, on nous aurait servi un turak, donc un café à la turque, et encore même pas à la turque, en fait, c'est en fait du café en poudre versé à la barbare dans de l'eau bouillante. Ça faisait aussi le charme de cette période, mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un expresso correct. Bon. Ça a changé. Turka se však ptali v mlejně, čeho bude v Praze žít. Turek sáhl do truhlice, nalil vodu do konvice. Co pak tohle znamená? Je to káva, káva, káva. Je mně mletá, silná, pravá, prvně v Praze vařená. Turek byl tím okamžikem, prvním pražským kavárníkem. A co z toho vyplývá, že od těch dob v Praze vaří černou kávu mladí staří. A nám teď už nezbývá. Než proklít Turka s jeho kávou, jemně mletou silnou pravou. Nemoce by nebyly, nebyly by cévní vady, tepky tepal bez závady. À l'époque, quand vous êtes arrivé, il n'y avait pas autant d'échanges en Europe, il n'y avait pas autant d'étudiants qui venaient en République tchèque, c'était quand même une démarche assez particulière, on voyageait moins, venir à Prague était moins évident qu'aujourd'hui, même pour les touristes, dans l'imaginaire c'était toujours un pays de l'Est, c'est quand même moins le cas aujourd'hui, même si on voit bien que l'Europe est toujours plus ou moins divisée en deux, Ouest et Est. À cette époque, pour les Tchèques, un étranger, un Français qui plus est, qui apprenait le tchèque, on suppose que ça avait beaucoup de charme aussi. Oui, évidemment.
Beaucoup d'avantages.
C'était le jeu, c'était aussi comment dire, une manière de... Oui, une manière de séduire. Mais là, on rentre dans la psychologie, mais oui. Déjà, et comme je l'ai dit, donc, les Français dans les années 90 et même encore aujourd'hui accueillaient à bras ouverts les Français et les Occidentaux en général, les Anglais, les Américains. Et à plus forte raison, parlant tchèque ou faisant l'effort de faire la démarche, oui, ça avait effectivement quelque chose pour leur père. Donc ça a forcément joué. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que je me suis senti si bien ici. C'est vrai.
Et qui a fait que vous avez connu donc votre fameux tchèque. Tout de suite, vous avez parlé en tchèque ?
Non, au début c'était la catastrophe, évidemment les gens me répondaient en anglais. En fait, il y a un peu deux étapes. Il y a d'abord cette étape de la curiosité. Les Tchèques ils sont intrigués voyant un Français patauger dans leur langue et sans arriver à se faire comprendre de manière très claire. Et puis après, voilà, il y a un seuil, il y a un moment charnière où après, alors là on me répondait en tchèque, alors là ça décoiffe, on ne comprend pas tout au début. Et puis après, après on arrive à un point. Alors, il y a une deuxième phase où les gens vous répondent en tchèque, on communique, on échange, et les gens s'extasient. Mais vous parlez parfaitement tchèque, vous parlez très bien tchèque. Mais en réalité, quand les gens s'extasient, ça veut dire encore qu'ils sentent que vous parlez une langue étrangère. Il y a une troisième phase, après, les gens vous remarquent même plus, en fait. Et ils vous en parlent plus, en fait. Ils vous font pas de remarques sur le temps. Et là, en fait, ça prouve que vous maîtrisez vraiment la langue, à tel point que c'est devenu accessoire, c'est devenu un outil de communication pur et simple, ce qu'elle doit être dans les échanges de tous les jours.
Vous vivez à Prague. Votre pratique du tchèque vous permet-elle d'apprécier les nuances dans les accents, dans la pratique, selon les régions?
Oui, je to tak. Clairement. Parce que donc moi, mon tchèque, c'est un tchèque de Prague. Alors évidemment, au début, j'étais surpris parce que quand j'avais mon manuel de tchèque que je voyais, donc, on pouvait écrire « dobrý »,« skvělý », donc on dit « okno ». En réalité, c'est pas ce qu'on dit. À Prague, on dit « vokno », on ne dit pas « on », on dit « von », on dit « dobrý », « skvělý », etc. Donc il y a des régionalismes, il y a des prononciations qui diffèrent. Ça, je m'en suis rendu compte, puis très vite, je suis venu à les utiliser moi aussi. Et donc, j'entends les particularités. Donc, les Moraves disent, par exemple, « sous brna »,« sous », au lieu de « sem ». Mais bon, c'est une variante, en fait, de conjugaison. Il y a des choses qui m'amusent encore beaucoup. Une collègue d'Ostrava m'a écrit, il n'y a pas trop longtemps, « fajnje ». Ça m'a amusé, parce que donc, ça ne se dit pas en bohème. Et je confirme, la plupart des Tchèques de bohème ne connaissent même pas, en fait. « Fine », c'est un adverbe, ça vient de l'anglais, ça veut dire « sympa »,« super »,« cool ». Bien, fajnový, éventuellement on peut le transformer en adjectif, mais fajně ou fajný, ça non, c'est ce type de, c'est une autre construction et il n'existe pas du tout ici. Après, oui, il y a aussi des accents, l'accent d'Ostrava et l'accent de Moravie en général est plus syncopé. Ils ont des archaïsmes, ce que en bohème on considère un peu comme des archaïsmes, c'est-à-dire que c'est plus proche de la langue écrite soutenue. Par exemple, on peut dire dost, ils vont dire dosti, on prononçait ça. Prononcer ce type de terminaison. Donc oui, ça s'entend clairement. Et puis les Slovaques, après, ils ont souvent un accent quand même clairement identifiable. C'est agréable d'entendre, de voir les différences. Pour moi, le tchèque de Prague, il a un charme, quand même. J'y tiens beaucoup. Et puis je le retrouve aussi dans les écrivains que j'aime bien, par exemple chez Hašek, hein, c'est le tchèque aussi des personnages de Švejk. C'est ce qui m'intéresse, ou même des écrivains contemporains comme Hacker, Hulova, etc., utilisent ce type de langue. Et donc, pour moi, il a une couleur. Mais c'est vrai que quand je me déplace pas, je m'en rends plus trop compte, en fait.
Já si nemůžu pomoct. Já byl už na vojně superarbitrován pro blbost. Já jsem ouřední blb. Tak už jsem tady taky. Já to věděl, že ten pán bude držet slovo. Taková přesnost je moc pěkná věc.
Taková přesnost stojí za hovno.
Jo. Opatrnost matka moudrosti. Tak mi dejte velký rum.
Nemýláte občas nějaké záchvaty?
To prosím, nemývám. Jenom jednou mě málem zachvátil automobil na Karlovým náměstí, ale to už je řada let.
Nemáte sirky?
Poslušně hlásím, že nemám.
Jak to, že nemáte sirky? Každý pořádný voják má mít sirky, aby si mohl připálit. Voják, který nemá sirky, je... Co je?
Je bez sirek.
Voilà, c'est avec des extraits du film du brave soldat Švejk qu'on arrive au terme de cette émission spéciale, une émission consacrée à l'amour du tchèque de Benoît Meunier. Benoît Meunier, professeur de français à Prague et traducteur du tchèque au français. C'est Guillaume Narguet qui a eu le plaisir de préparer et de vous présenter cette émission. Merci de votre attention et à très bientôt de nouveau à l'écoute des programmes en langue française de Radio Prague. Ahoy et bonne fête.
Ozví se, kde jsi, kuku, ozví se.